Didier Mellière est notre invité. Didier Mellière, vous venez de sortir un livre chez Salvator, Homélie et prise de parole publique, 30 exercices pour se perfectionner. Pourquoi vous avez donné du temps à former des prêtres à la prise de parole?
Alors, il y a deux raisons. La première, c'est qu'on est dans une situation d'église qui est quand même relativement catastrophique actuellement. Depuis 70 ans que je participe plus ou moins à l'évangélisation sous des formes diverses, j'assiste à une lente décroissance, rétrogradation, effondrement. Lorsque j'ai démarré, il y avait 90% des Français qui disaient catholiques. En 2002, il n'y en avait plus que 69%. Et en 2013, il n'y avait plus que 56%. Mais si on s'intéresse aux jeunes, c'est un tiers des jeunes seulement qui disent catholiques. Donc on est passé de 90% à 30%. Si on regarde les taux de baptême, on est passé de 93% autrefois à 32% actuellement. Les taux de baptême, c'est-à-dire le nombre de baptêmes par rapport au nombre de naissances. La participation aux messes des catholiques, 25% sur l'ensemble de la France autrefois, ce qui était pas mal, pour 1,8% actuellement. Le nombre de prêtres diocésains, 50 000 dans ma jeunesse, moins de 8 000 actuellement, dont un quart de prêtres étrangers qui posent d'autres problèmes, comme vous le savez, tantôt d'élocution, tantôt de culture. Et puis bon, les églises fermées, les catéchismes fermés, et puis de plus en plus de personnes qui disent le Christ oui, mais l'église non. Donc effectivement, les homélies, il y a une urgence. Alors, malheureusement, et ça c'est la deuxième raison, trop souvent ces homélies sont des occasions ratées. Or, ce sont des occasions pratiquement uniques, car actuellement, et on le sait bien depuis le synode sur la parole de Dieu dans la vie, et la mission de l'Église en 2008, les homélies sont le principal lieu pour la plupart des gens d'entendre parler du Christ et de l'Église. Les homélies, on l'a dit tout à l'heure, c'est extrêmement difficile. J'avais initié une enquête qui est parue dans Le Pèlerin en 2008. On posait plusieurs questions. Est-ce que les homélies que vous entendez habituellement vous nourrissent? Et 54% avaient dit oui, donc 46% avaient dit non. La deuxième question, c'était est-ce que, à votre avis, ces homélies peuvent aider les personnes en recherche? Et 25% ont dit oui, 75% ont dit non. Est-ce que ça peut intéresser les jeunes qui vous entourent? 20% ont dit oui, 80% ont dit non. Donc, il y a un vrai problème, et on le sait bien, les homélies excellentes, les homélies bonnes, les homélies nourrissantes, elles remplissent les églises. Mais l'inverse est aussi vrai. Alors, il y a un double problème de préparation, préparation en amont et préparation pour chaque dimanche. Préparation en amont, ce qu'ils connaissent, les techniques de communication orale, transmission orale. Et là, ça implique de réfléchir à ce que j'appelle les fondamentaux, c'est-à-dire comprendre les mécanismes physiologiques de la réception d'une transmission. Une transmission, c'est un émetteur, un ou deux messages et des récepteurs. Comment les récepteurs reçoivent? Ça n'est pas évident. On pourra en reparler tout à l'heure, je crois que c'est très, très, très important, parce que si on n'a pas compris ça, on ne peut pas comprendre le reste. En fait, le problème des prêtres qui ne se préparent pas, ni avant, ni au moment de l'homélie dominicale, c'est qu'ils n'ont pas compris l'importance des attentes, ils n'ont pas compris la nature des attentes qui n'est plus celle d'hier, et qui varie souvent, ils n'ont pas compris la différence entre communication écrite et communication orale, ils n'ont pas compris les effets négatifs d'une homélie médiocre et ils n'ont pas compris l'efficience des ateliers où ils pourraient s'entraîner et progresser. Car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et pour progresser, il faut trois choses. Un, la volonté.
Oui.
Deux, le travail.
Oui.
Et trois, la méthode. Il faut une méthode appropriée. C'est pour ça, si vous voulez, que ayant la chance d'avoir dirigé pendant 20 ans le Collège français de chirurgie vasculaire qui était chargé d'organiser les modalités de la formation en chirurgie vasculaire dans toute la France, c'est-à-dire donc de Lille à Marseille et de Brest à Strasbourg, c'était aisé pour moi de transposer ça à la formation aux homélies, parce qu'au bout, c'est jamais que formé à une technique. Donc, une technique et une façon de faire passer le message. Comme vous savez, il y a trois manières pour les prêtres de progresser. C'est de s'inscrire à un atelier, et je leur conseille vivement, quelles que soient leurs difficultés, de s'inscrire à des ateliers. Il suffit de contacter sohcato.org, sohcato.org, sohcato en un seul mot, .org. Bien. Mais d'autres ne veulent pas suivre des ateliers parce que se confronter, je dirais, à ce côté interactif qui permet à plusieurs prêtres de progresser ensemble, d'apprendre autant en voyant les difficultés de l'autre qu'en se faisant dire ses propres difficultés. À côté, il y a le coaching individuel. Donc, les mêmes qui font les ateliers proposent des coachings individuels. Tout ça, c'est gratuit, sauf malheureusement les frais de déplacement. Mais il y a des prêtres qui sont très isolés, qui ne peuvent pas se déplacer si loin. Et puis, il y avait aussi tous les prêtres qui, durant les 10 ans où j'ai dirigé ce service d'optimisation des homélies, m'écrivaient du Congo, du Cameroun, de Madagascar, du Canada, des Philippines, du Vietnam,
oui, et d'ailleurs. Donc là, la difficulté de se déplacer est amplifiée.
Voilà, ou d'Océanie. Alors, en Océanie, j'aurais bien été les voir, mais ils n'avaient pas de quoi me payer les frais de déplacement. Voilà. Donc, pour tous ces prêtres, lorsque j'ai eu fini de diriger pendant 10 ans, c'est ce service d'optimisation des homélies, j'ai écrit ce livre. Parce que la technique, en 10 ans, on a eu 1000 prédicateurs.
Hein. Ah oui
1000 prédicateurs, 400 prêtres.
Donc ça a dû évoluer,
300 diacres, 120 séminaristes et 380 laïcs ayant à parler, soit pour accompagner des célébrations, soit pour faire des exposés de foi. Donc, j'ai écrit un livre pour les prêtres isolés, mais en bénéficiant de toute la technique qui s'était améliorée, raffinée, complétée, de façon de plus en plus performante, donc, au fil de ces 1000 accompagnements.
Eh oui, c'est un beau fruit que vous avez pu cueillir là, hein ?
Oui.
Ça aurait été trop tôt de le faire il y a 10 ans avant.
Oui, et c'est pour ça que je peux dire que ce livre, c'est pas moi. Bon, c'est le Saint-Esprit d'une part, mais c'est aussi tous les apports, aussi bien des formateurs qui m'ont accompagné, 80 formateurs, dont certains ont fait des gros apports. C'est aussi toutes les réflexions apportées par les prêtres à la fin de ces ateliers, nous disant, ben voilà, telle chose, on aurait pu le développer plus ou moins, ou ça, peut-être que vous auriez pu le dire, ou ça, c'est inutile, et donc on a supprimé telle ou telle chose. Donc, le livre tient compte un petit peu de tout ça. Il n'est pas parfait, il correspond à une époque, il est probable que dans 15 ans, il sera obsolète, mais pour le moment, il n'y a pas, d'équivalent. En ce sens que ce livre, il est centré sur des exercices, 30 exercices. Ces 30 exercices, il y a une progression depuis, un diagnostic initial jusqu'à un diagnostic terminal. C'est le fondement du livre. Et pourtant, il n'en occupe qu'une petite partie, parce qu'on ne peut pas faire les exercices si on n'a pas appris la théorie. Donc, il y a beaucoup sur la théorie. Mais on ne peut pas s'intéresser à la théorie si on n'a pas compris les fondements. Donc, dans le livre, il y a les fondements, la théorie, les exercices, et ensuite toute une partie pour les laïcs, notamment l'accompagnement des funérailles ou d'autres choses comme les ADAP, qui vont peut-être revenir. Et puis, enfin, il y a des annexes, comme notamment comment parler de la Bible et de l'Ancien Testament à la lumière de l'enseignement de la Commission biblique pontificale qui a produit un très gros livre qui est passé inaperçu en France, qui s'appelle « Inspiration et vérité de l'Écriture » et que beaucoup de prêtres n'ont pas lu, ce qui est tout à fait dommage.
Un livre qui est facile à trouver, paru chez Salvator. Hein. Alors, j'en redis le titre, « Homélie, prise de parole publique, 30 exercices pour se perfectionner ».
On peut le trouver, bien sûr, en librairie spécialisée, mais surtout Amazon, comme vous le savez. Je ne veux pas faire de publicité pour Amazon, mais Amazon vous prend un centime de transport habituellement, et ça vous arrive dans les 48 heures. Alors, 22 euros, je suis désolé, mais bon, il faut bien que Salvator vive. Donc, voilà. Mais ce ne sont pas mes honoraires.
Bien sûr.
Voilà.
Vous nous avez promis de nous revenir un peu sur les fondamentaux de la communication. Est-ce que c'est maintenant que vous nous en reparlez ?
Oui, je crois. On peut en parler maintenant, si vous voulez. Parce que qu'est-ce que découvrent les prêtres là-dedans ? Ils découvrent que ce qui est important, ce n'est pas ce qu'ils vont dire, mais c'est ce que les auditeurs vont emporter. Et que deuxièmement, ils emporteront d'autant plus qu'on les aura fait réfléchir.
Alors, ça vient un peu en... Moi, ça me fait penser à la phrase de Bernadette. Je ne suis pas chargée de vous convaincre, je suis chargée de vous le dire. Mais ça, c'était Bernadette à Lourdes, à une époque. N'empêche que le prêtre qui se retrouve à devoir faire une homélie, il n'est pas uniquement chargé de dire, mais il est aussi chargé de transmettre un amour de Jésus. Il est chargé de donner quelque chose que les gens vont emporter avec eux.
Bah, c'est simple. Ou il le vit, ou il ne le vit pas. Mais s'il le vit, il a envie de le transmettre. Oui. Évangéliser n'est pas quelque chose de en plus. dans notre foi, où nous sommes passionnés de Jésus-Christ,
oui,
où nous sommes vraiment convaincus qu'il peut répondre à nos problèmes à la fois personnels et sociétaux.
Oui.
Même dans ce monde hyper changeant, hyper évolué, et où le progrès occupe une place fondamentale. Oui, ils ne le sont pas. S'ils sont persuadés, bien sûr, ils ont envie de transmettre. Et si on transmet, il ne suffit pas de le dire. Il faut effectivement le faire avec sa passion. Et il ne suffit pas que la passion soit interne. Il faut encore que la passion soit perçue par les autres. Et c'est là qu'interviennent les fondamentaux de la transmission. Donc, comment susciter la réflexion de ceux à qui vous parlez? Eh bien, il y a des techniques. Les questions, avec un grand silence derrière. Les paraboles. Il y a tout un chapitre dans le livre sur les questions de Jésus. Parce que Jésus a posé énormément de questions. Pourquoi il a posé ces questions? Parce qu'il voulait n'apporter la réponse que sur un terrain qui avait déjà. Et parfois, c'est autre chose. C'est une provocation. La femme adultère. Que celui qui n'a jamais péché, il va pas plus loin, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ils s'en vont tous. Le verbal trahi par le non-verbal, c'est aussi une découverte. La majorité des prêtres ignorent que quand ils parlent de la joie de Jésus-Christ avec une tête d'enterrement, ils font fuir. Soit on parle de la joie de la résurrection, mais il faut qu'on ait la gueule de la joie. Si on est au contraire très souriant, etc., d'un moment extrêmement triste lors de funérailles, ça va être aussi mal interprété. Il faut vraiment que le verbal et le non-verbal soient absolument associés. Et puis, il y a un truc très important, c'est le choix de l'objectif. Chaque homélie doit avoir un objectif précis.
Ça ne doit pas être facile parce que quand on a un message à transmettre, il y a beaucoup d'objectifs qui peuvent arriver. Il faut quand même se limiter, c'est ce que vous nous faites comprendre.
Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, c'est comme une piste de ski. Vous arrivez dans une station de ski que vous connaissez pas, vous prenez le téléphérique, et puis vous êtes là-haut, puis d'un seul coup, vous voyez une belle piste devant vous, et vous y allez. C'est une piste noire, mais vous savez pas maîtriser vos skis dans une piste noire, et vous vous retrouvez à l'hôpital. Si vous aviez regardé le panneau à côté, vous auriez vu qu'il y avait 4 ou 5 autres pistes, et vous auriez peut-être choisi la petite piste verte qui passe entre les arbres avec les petits oiseaux qui chantent, parce que justement, c'est ce que vous vouliez trouver. Mais pour ça, il aurait fallu regarder le panneau. Devant le lectionnaire de dimanche prochain, on peut déterminer une douzaine d'objectifs. On peut se lancer sur la première piste, mais en ce cas-là, le danger, c'est qu'on va redire exactement la même chose que dimanche dernier et la même chose que le dimanche d'avant. Étonnez-vous ensuite si les paroissiens disent qu'ils s'ennuient à la messe. Vous avez dit à chaque fois exactement les mêmes choses, avec exactement le même ton, avec exactement les mêmes intonations, mais vous emmerdez tout le monde. Donc, il faut effectivement choisir des objectifs variés. Et le choix de l'objectif, c'est toute une technique. C'est partir, comme disent les évêques dans la lettre finale du synode sur la parole de Dieu. Jésus ne prononçait jamais des paroles éthérées. Il partait du sol sur lequel ils avaient leurs pieds pour monter au ciel et redescendre aux applications pratiques. Alors, c'est pas la citation exacte.
Et oui, ça c'est important pour vous. On monte au ciel, mais on redescend sur terre.
Mais évidemment, le royaume de Dieu, il est d'abord sur terre. Est-ce que vous voulez qu'on dise un mot des 2 secrets des homélies?
Vous allez nous révéler ça.
Il n'y a que 2 secrets.
Que 2.
Le premier, c'est de donner envie.
Oui.
Et le deuxième, c'est de se mettre à leur place. Avec ces 2 secrets, vous êtes sûr de gagner. Alors, on peut ensuite un peu développer, mais avant de développer, il faudrait parler des différences entre la communication écrite et la communication orale. Vous vous rappelez Monsieur Jourdain disant « Ah, la prose, etc. » Voilà, bien sûr. La communication écrite demande moins de travail que la communication orale. C'est surprenant.
Et on n'est que sur un plan. C'est-à-dire que c'est écrit, la personne va le lire, donc il faut que ça soit lisible, que les phrases soient bien construites, mais que ça parle à l'intelligence. Mais je n'ai pas la gueule de la personne qui a écrit, je ne sais pas dans quel état elle est, je n'ai pas son langage non-verbal, je n'ai pas ses tons de voix.
Voilà. Et puis, la communication écrite a 2 avantages. Elles me permettent d'aller à mon rythme quand je lis.
Oui.
Si je ne suis pas prêt à lire maintenant parce que je ne sais pas quoi, je ne lirai pas maintenant.
Oui.
Si je veux aller vite ou si je veux aller lentement, quand j'ai pris 2 tasses de café, je vais très vite. Quand je suis en fin de journée, je vais moins vite. Voilà. Et je peux y revenir.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai vu un truc intéressant et le lendemain, je me dis, tiens, j'aimerais bien relire ce passage. Ça, c'est la communication écrite et ses avantages. Elle a un inconvénient. C'est que ce n'est pas direct. Donc, je ne peux pas transmettre ma passion. Je ne peux pas voyez cette fascination de Jésus-Christ qui m'habite. Je peux faire un texte écrit qui va être beau, qui va arracher des larmes, etc. Mais je ne transmettrai pas ma passion aussi bien que par l'oral. Parce que l'oral me permet de regarder les gens dans les yeux. Et c'est, les yeux, c'est la seule partie du cerveau qui soit à l'extérieur du corps. Hein. Il n'y a pas d'autre partie du cerveau qui soit... C'est une prolongation du cerveau, les yeux.
J'aurais donc, jamais dit ça comme ça.
Ben, de mes yeux à vos yeux... Je peux vous dire ce qui m'habite. Ensuite, à vous, libre à vous de le refuser et de ne pas être d'accord. Mais au moins, vous aurez compris ce qui m'anime. Donc, dans la communication orale, il y a un énorme avantage. C'est le seul moyen de transmettre directement sa passion. Mais il y a trois inconvénients, qui sont terribles. Premier inconvénient, impossibilité d'aller à mon rythme. Je connais des prêtres qui vont à toute allure. Les concepts s'enchaînent, un petit peu comme, les bombes, vous savez, les photos de bombardement, vous voyez, voilà. Bah, évidemment, vous pouvez pas suivre. Du coup, vous pensez à autre chose. Alors que le fond est sensationnel, hein. La deuxième chose, c'est que c'est orateur dépendant. C'est vrai pour la chirurgie aussi, hein. Il faut choisir son chirurgien. C'est très orateur dépendant. Il y a des orateurs qui sont hyper doués. Et des orateurs qui ne le sont pas. Mais il faut savoir que même un médiocre orateur peut devenir sensationnel grâce aux exercices, aux ateliers. Hein. Bon, et enfin, la troisième chose, c'est qu'on ne peut pas y revenir. Si vous avez loupé un passage dans une homélie, vous ne pouvez pas lever le doigt. Stop, monsieur le curé, vous pourriez revenir en arrière 2 minutes, vous savez, comme quand oui, vous reculez oui, votre oui, émission.
Il n'y a pas de podcast,
camp,
là. Hein.
Voilà, bon, voilà. Du coup... Il est clair que la communication orale, c'est beaucoup plus difficile.
Le pape a dit que l'homélie est la pierre de touche pour évaluer la proximité et la capacité de rencontre d'un pasteur avec son peuple. De fait, nous savons que les fidèles lui donnent beaucoup d'importance et ceux-ci, comme les ministres ordonnés eux-mêmes, souffrent souvent les uns d'écouter, les autres de prêcher. Il est triste qu'il en soit ainsi.
Oui, le pape est très concerné et le synode sur la parole de Dieu a bien montré que le problème des homélites est un problème considérable, car l'évangélisation c'est le fait de tout le monde, y compris des laïcs, mais pour les prêtres ça passe en grande partie par les homélies. L'état actuel catastrophique de l'Église dont j'ai oui. parlé tout à l'heure, il est lié en grande partie à la sous-formation des catholiques. Et cette sous-formation, les homélies, ça en fait partie.
Prends un autre extrait d'Evangelii Gaudium et homélie. Certains croient pouvoir être de bons prédicateurs parce qu'ils savent ce qu'ils doivent dire, mais ils négligent le comment, la manière concrète de développer une prédication. Ils se fâchent quand les autres ne les écoutent pas ou ne les apprécient pas, mais peut-être ne se sont-ils pas occupés de chercher la manière adéquate de présenter le message. Rappelons-nous que l'importance évidente du contenu de l'évangélisation ne doit pas cacher l'importance des voies et des moyens. C'est pas rien.
Alors, il faut bien comprendre que dans la réception d'un message, il y a 5 étapes. La première, c'est entendre. Et c'est pas évident pour le sourd ou pour le distrait. Oui. D'entendre. Vous savez tous l'histoire de cette jeune femme qui était en train de regarder son téléphone portable en traversant la rue, qui n'a pas entendu la voiture, qui faisait pourtant du bruit et qui l'a écrasée finalement. Donc, entendre, c'est un phénomène actif dans le cerveau.
Oui.
Deuxièmement, il faut écouter. Or, on peut entendre sans écouter.
Et ça
il y a
change, oui.
dans le livre un des dessins d'Yves Guézou. Alors, je n'ai pas parlé d'Yves Guézou, mais Yves, c'est le Breton qui habite à Nîmes.
Ouais, les auditeurs le connaissent, ils le connaissent très bien.
Et qui est sensationnel. Hein,
oui,
voilà.
oui.
Bon, alors il a fait un dessin donc où on voit une femme qui interpelle son mari plongé dans son journal et qui lui dit « Répète un peu ce que je viens de dire ». Et lui, évidemment, il a entendu les sons.
Oui.
Mais avec les sons, il n'a pas fait des mots.
Oui.
Et avec les mots, il n'a pas fait des idées. Donc, il est incapable de répéter.
Oui.
Écouter, c'est un phénomène actif. Ce n'est pas passif. Ensuite, il faut comprendre. Comprendre les sons, comprendre les mots, comprendre le sens. C'est encore un autre phénomène actif. Ensuite, il faut mettre en mémoire. Et là encore, c'est une activité du cerveau. Et enfin, après, l'auditeur, il se positionne en positif, j'adhère, en négatif, je refuse, ou en indifférent, je m'en fous. Donc, il y a 5 étapes qui sont toutes des étapes actives du cerveau. Donc, c'est un énorme travail. Et il est évident qu'il faut favoriser la réponse positive à chacune de ces étapes.
Surtout si le message que l'on veut transmettre, on y croit et que ça a changé notre vie, ça a bouleversé notre vie. C'est ça qu'on veut transmettre, c'est une foi. Faire rencontrer quelqu'un, rencontrer Jésus et le rencontrer dans son église. En tout cas, Didier Mellière, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité. Vous venez de sortir ce livre qui est disponible, Homélie et prise de parole publique, 30 exercices pour se perfectionner. La préface est quand même de Monseigneur Aupetit. C'est pas rien.
Le livre a obtenu la primature avant. Alors, je l'ai passé. J'avais très peur en tant que laïque de dire des bêtises. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je l'ai fait passer à l'imprimature, mais sans dire que j'avais travaillé pendant 10 ans avec Monseigneur Aupetit.
Ah.
Et comme ça, j'ai été assuré que le livre n'avait pas de contresens, d'hérésie.
Il est disponible chez Salvator. Les auditeurs peuvent le commander. Il est vendu vraiment pas très cher, 22 euros. C'est un livre qui s'adresse à la fois à des prêtres, à des diacres, à des laïcs.
Oui, notamment...
Peut-être même des animateurs radio, finalement.
Oui, tous ceux qui ont à parler en public et qui veulent faire passer un message précis. Donc, il faut qu'ils connaissent les fondamentaux, il faut qu'ils connaissent un peu de théorie. Si possible, il faut qu'ils aient un complice qui leur dise... Tu es excellent sur telle chose, mais sur tel point tu pourrais te perfectionner. Et à ce moment-là, ils vont faire les deux exercices précis qui correspondent à ce défaut. Autrement dit, quand vous voyez les 30 exercices, il y en a beaucoup qui ne vous concernent pas. Mais d'autres, au contraire, sont très importants.
Et rappelez qu'il y a un site clépouromélieheureuse.org.
Voilà, clé pour Amélie Heureuse en un seul mot, sans espace.
Ce site s'adresse à aux prêtres isolés qui voudraient continuer de travailler ou entreprendre ce travail de perfectionnement. Merci beaucoup Didier Mellière. On a été heureux de vous avoir à l'antenne d'Ecclésia. Passez une excellente période de fête dans notre région.
Merci et vous aussi.